Vous écoutez On lit pour vous.
Neuvième congrès international des recherches féministes dans la francophonie. Un texte de Sébastien Boulanger, paru le 10 juillet 2026 dans la Gazette des femmes. Un rassemblement scientifique de marque fera rayonner la connaissance à Québec cet été. Du 17 au 21 août, l'Université Laval accueille le 9e Congrès international des recherches féministes dans la francophonie, CIRFF. L'événement triennal, présenté cette année sur le thème « Réimaginer, francophonie, lutte et savoir féministe », rentre au Bercail pour célébrer ses 30 ans. C'est à Québec qu'est créée la première mouture du CIRFF en 1996 à l'initiative de l'anthropologue Huguette Dagenais et d'une équipe de chercheuses féministes québécoises. La professeure, alors titulaire de la chaire d'études sur la condition des femmes de l'Université Laval, aujourd'hui chaire Claire Bonenfant, femme savoir et société, souhaite réhabiliter la recherche féministe francophone dans un champ d'études jusque-là largement occupé par l'approche anglophone. À l'époque, les rencontres féministes internationales étaient fréquentes et se déroulaient principalement en langue anglaise, rappelle Huguette Dagenais, dans un entretien publié il y a quelques années dans « Petite histoire du premier CIRFF ». Nous avions donc envie et besoin d'échanger directement, sans traduction, avec des collègues féministes partageant la même langue et, ce faisant, d'élargir et d'intensifier notre réseautage international francophone. La participation remarquable au premier colloque, qui prendra plus tard l'appellation de congrès, et la variété disciplinaire proposée confirment l'effervescence du moment et l'enthousiasme du milieu. À ma connaissance, ce colloque international de recherche féministe était le premier à se tenir uniquement en langue française et à réunir en un même lieu autant de chercheuses francophones de disciplines variées et en provenance d'autant de provinces et de pays différents, se souvient Huguette Dagenais. Après Québec, l'initiative résonne rapidement dans l'espace francophone. Les villes de Dakar, Toulouse, Ottawa, Rabat, Lausanne, Montréal et Nanterre accueillent tour à tour le CIRFF, affirmant d'emblée son importance dans la francophonie féministe mondiale. Francophonie et études féministes, un rapport complexe. Dans un contexte international marqué par une flambée des droites populistes et des discours haineux, et par un recul conséquent des droits des femmes et des minorités, le CIRFF 2026 s'articule autour du grand thème « Réimaginer, francophonie, lutte et savoir féministe » déployé comme autant d'axes d'analyse. Comment penser et appréhender la recherche féministe actuelle au sein de la grande francophonie? La titulaire de la chaire Claire Bonenfant de l'Université Laval, Isabelle Auclair, insiste sur la nécessité d'une recherche féministe francophone qui s'interroge ouvertement sur les structures de pouvoir. Il faut reconnaître que le rapport à la francophonie dans les études féministes reste complexe, dans la mesure où il s'agit à la fois d'un espace de rencontre, de solidarité et de résistance, mais aussi d'un pôle marqué par des rapports de pouvoir qui résultent d'une histoire façonnée par des processus de colonisation, d'impérialisme, de guerre et de génocide. Une dualité qui demeure au cœur des réflexions des participants-participantes au CIRFF 2026. Dans la continuité des éditions précédentes, la francophonie y sera réfléchie à la fois comme espace pouvant être, pour certaines personnes, source d'ancrage et d'appartenance, mais pour d'autres, lieu de reproduction des dynamiques inégalitaires, soutient la professeure en sciences de l'administration. Retour aux sources. De retour à l'Université Laval, 30 ans après sa fondation, le CIRFF 2026 accueille, dans sa programmation, des participants et des participantes en provenance d'une trentaine de pays. On dénombre, à ce jour, 750 personnes inscrites, dont la grande majorité assistera à l'événement en présence. C'est un honneur pour l'équipe actuelle de la chaire Claire Bonenfant et ses partenaires de pouvoir reprendre le flambeau 30 ans après la création du CIRFF par Huguette Dagenais, se réjouit Isabelle Auclair. Pour nous, les anniversaires sont des occasions doubles de reconnaître le travail accompli, mais aussi de poser un regard critique sur le travail qu'il reste à faire. De ce pas de recul, les organisatrices tirent une ambition opportune, celle de réimaginer collectivement la francophonie féministe. En visant à renforcer les solidarités locales et internationales, l'édition 2026 du CIRFF sera guidée par une réflexion à la fois interdisciplinaire et intergénérationnelle, alliant le devoir de mémoire à une volonté affirmée de soutenir la relève, souligne la titulaire de la chaire Claire Bonenfant. Les inscriptions au 9e Congrès international des recherches féministes dans la francophonie sont ouvertes jusqu'au 10 août 2026. C'était 9e Congrès international des recherches féministes dans la francophonie, un texte de Sébastien Boulanger, paru le 10 juillet 2026 dans la Gazette des Femmes.
Nord de Montréal versus Nord magnétique versus Nord géographique. Un texte de J.P. Kariwaki paru le 10 juillet 2026 dans Urbania. Entre le langage populaire et les cartes, les points cardinaux n'ont plus de sens. Si vous marchez vers le nord sur la rue Wellington à Verdun, votre boussole indiquera l'ouest. Même chose à Pointe-aux-Trembles, à l'autre extrémité de la ville, même si peu de gens se rendent à Pointe-aux-Trembles dans le but de prendre une marche. À Villemar, où cette distorsion atteint son paroxysme, les rues qui s'orientent au nord, comme Jolicoeur, pointent en réalité vers l'ouest-sud-ouest, ce qui rapproche le nord montréalais du sud géographique. Sur le plateau, vous pouvez vous rendre à une adresse supposément au nord tout en observant le soleil se coucher. Embêtant? Oui. Pourtant, les Montréalais n'y pensent pas tant. Sur Reddit, un internaute admet que, lorsque des touristes lui demandent où se trouve le nord, il leur demande de préciser lequel. Il y a le nord géographique, le nord magnétique, le nord montréalais, et aucun ne se trouve au même endroit. Alors, comment une ville entière s'est-elle bâtie sur de mauvaises coordonnées? La faute au fleuve. À Montréal, toutes les directions partent d'un même principe. Le fleuve Saint-Laurent coule d'ouest en est. En observant la carte, ça semble vrai. Le fleuve prend sa source du lac Ontario et se jette dans l'Atlantique. pendant près de 4 siècles, il a été l'autoroute liant les Grands Lacs à l'Europe. Monter le fleuve signifiait aller vers l'ouest et le descendre, aller vers l'est. Le problème, c'est ce que fait le fleuve une fois rendu à Montréal. L'île se situe à la confluence du fleuve et de la rivière des Outaouais. Alors que le Saint-Laurent la contourne, il effectue un virage de près d'un quart de tour, coulant presque plein nord le long de certaines parties de l'île avant de s'orienter à nouveau vers le nord-est. Les villes se sont toujours articulées autour de leurs cours d'eau, et c'est précisément cette caractéristique qui brouille littéralement les cartes pour Montréal. Les cours d'eau de Manhattan bordent ses flancs de manière constante, alors qu'à Montréal, le fleuve pivote sur son passage. Quand le premier plan d'urbanisme de la ville a été dessiné en 1672, une poignée de rues de ce qui est aujourd'hui le Vieux-Port ont été tracées parallèlement et perpendiculairement à la rive. Le fleuve était considéré comme le plein sud parce que c'est ainsi que les gens le percevaient. On arrivait par l'est, on continuait vers l'ouest et l'eau était la limite inférieure du monde connu. Cette fiction se cristallise dans les archives de la ville. Une carte de 1801, réalisée par l'inspecteur des chemins Louis Charland, fait pivoter l'île entière pour que le fleuve coule à plat au bas de la page. Une petite rose des vents concédant que le nord géographique se trouve en réalité sur le côté. Depuis 2 siècles, Montréal est dessiné de côté. C'est encore le cas avec les cartes affichées dans le métro, qui montrent Laval en haut et l'ouest de l'île à gauche. Fermes et boussoles. La trame urbaine ne s'est pas limitée au Vieux-Port, et c'est ici que le régime seigneurial entre dans le tchat. Sous le régime français, les terres agricoles étaient divisées en longues bandes étroites qui s'étiraient à partir de l'eau pour faciliter l'accès au fleuve. Lorsque ces lots agricoles sont devenus des rues, elles ont hérité de la même orientation, perpendiculaire à la rive, devenant d'office le nord-sud, malgré ce que les boussoles en disent. Ça explique aussi pourquoi ce chaos est loin d'être uniforme. Montréal, comme l'a expliqué David Wasmuth, professeur d'urbanisme à l'Université McGill, au balado Good Question Montreal de la CBC, est une ville de trame au pluriel. Un patchwork de quartiers qui se sont chacun alignés sur leur propre portion du fleuve avant d'être cousus ensemble. Ouvrez une carte du sud-ouest, où des trames voisines ont pris leur repère sur différents plans d'eau et vous constaterez cette collision par vous-même. En 1672, la boussole penchait largement du côté des fondateurs de la ville. Le nord magnétique, soit là où son aiguille pointe, n'est pas le nord géographique et il se déplace. Il se déplace drastiquement au fil des siècles et, à l'époque de la Nouvelle-France, il se situait suffisamment à l'ouest de sa position actuelle pour que la trame urbaine inclinée de Montréal s'aligne plus précisément avec le nord magnétique qu'il ne l'est aujourd'hui. Ainsi, un colon se tenant sur la rue Saint-Paul, boussole à la main, aurait vu son aiguille plus ou moins confirmer l'orientation des rues. Au fil du temps, le pôle s'est déplacé, le GPS a remplacé la boussole et Montréal a conservé ses appellations. Le bout de la carte. En traversant le fleuve, le chaos demeure. Par exemple, la rive sud se situe en fait à l'est de Montréal, ce qui explique pourquoi le pont Victoria, que tout le monde décrit comme reliant le nord au sud, traverse plutôt le fleuve d'ouest en est. Les autoroutes du Québec suivent cette même logique. Les routes est-ouest de la province portent des numéros pairs et les routes nord-sud impaires. Ces désignations suivent la trajectoire globale d'une autoroute plutôt qu'un tronçon de route particulier. C'est ainsi qu'à Brossard, l'autoroute 30 Est et l'autoroute 10 Est se déploient de manière perpendiculaire tout en se dirigeant officiellement dans le même sens. En prenant suffisamment de recul, on se rend compte que c'est effectivement le cas. Puis, il y a les cantons de l'Est, qui se situent au sud de Montréal et n'ont rien à voir avec toute cette histoire. En traversant la rive sud vers le sud, donc vers l'Est, vous arrivez dans une région nommée Est. Pour des raisons autres, les cantons ont été colonisés dans les années 1790 par des réfugiés loyalistes et des immigrants britanniques, et ce nom permettait de les distinguer des cantons de l'Ouest, qui sont devenus l'Ontario. Gaspé et la Côte-Nord sont en fait bien plus à l'Est. Pourquoi ne pas corriger le tout? Étrangement, le système fonctionne malgré tout. Les adresses montréalaises se conjuguent autour de deux points. Le boulevard Saint-Laurent sépare l'île d'est en ouest et les numéros grimpent vers le nord à partir du fleuve. Les rues obtiennent leur suffixe S ou S dès qu'elles traversent la Maine et la numérotation est synchronisée entre les rues parallèles. Par exemple, le 5000 Saint-Denis se trouve à peu près à la même hauteur que le 5000 Saint-Laurent. Une fois que vous avez saisi le tout, vous pouvez vous déplacer sans jamais vous soucier de l'endroit où le soleil se lève et se couche. Oubliez le suffixe, par contre, et vous pourriez vous retrouver à plusieurs kilomètres de votre destination. Par chance, cette convention est omniprésente. Les parcours d'autobus sont basés sur les points cardinaux montréalais et tout, des plaques d'adresse aux panneaux de sortie en passant par les annonces de logement et la moindre indication géographique donnée par un résident, repose sur la logique du fleuve. Le physicien Alan Kodos, qui a grandi à Montréal dans les années 1950, se remémore son enfance à Outremont, où pour sa mère, remonter la rue signifiait littéralement « descendre la pente ». Parce que monter signifie aller vers la montagne, même si on vit sur son versant opposé. La montagne est au nord, la rivière au sud. En haut, c'est vers la montagne. Ce sont des dogmes, pas des repères. Est-ce que ça devrait être corrigé? Oui. De la même manière, qu'on pourrait appliquer le système métrique à une recette de votre grand-mère, mais à l'échelle d'une ville comme Montréal, il faudrait renommer la moitié des rues, reprogrammer tous les parcours d'autobus et rééduquer des générations de citoyens pour qui cette carte est inclinée est, tout simplement la forme même de leur foyer. Alors, acceptons que le soleil se lève au sud. Et le reste s'emboîtera naturellement. C'était Nord de Montréal versus Nord magnétique versus Nord géographique, un texte de J.P. Karwaki, paru le 10 juillet 2026 dans Urbania.
Les sciences en Nouvelle-France, un texte de Jean-François Palomino, publié le 5 février 2024 dans BANQ. En Nouvelle-France, quelques savants ont pratiqué la science sous diverses formes, cartographie, astronomie, botanique, médecine, etc. Certains documents qu'on trouve dans les collections de BANQ témoignent des préoccupations et des techniques d'observation et d'analyse d'une autre époque. Aujourd'hui, au Canada, les sciences sont perfectionnées par une infinité de praticiens hyper spécialisés. La situation était tout autre il y a 300 ou 400 ans, alors qu'une poignée de savants explorait des domaines en apparence hétéroclites. On pouvait alors être à la fois mathématicien, astronome et hydrographe, ou bien médecin et botaniste. Cette science pionnière dont on trouve quelques traces dans les fonds et collections de BANQ est essentiellement européenne. Elle n'a laissé qu'une petite place, souvent difficile à déceler, aux observations et aux connaissances autochtones qui n'ont pas toujours été partagées avec les colons européens. Si la curiosité est un moteur important de la pratique scientifique, celle-ci se conçoit aussi dans une optique toute coloniale, où il est question d'exploiter un continent et ses ressources pour enrichir le royaume de France. À Paris, des institutions animées par des savants centralisent les connaissances provenant des colonies outre-mer. Les Jardins du Roi, fondés par Louis XIII, aujourd'hui le Jardin des Plantes à Paris, l'Académie royale des sciences, fondée en 1666 par Jean-Baptiste Colbert et Louis XIV à l'instigation de quelques savants, l'Observatoire royal, terminé en 1683, la Société royale de médecine. Ces établissements et ceux qui les fréquentent tissent des réseaux élargis de correspondants qui sillonnent le monde pour mener des observations en France et à l'étranger, que ce soit en Afrique, en Orient ou en Amérique. Les savants présents dans les colonies envoient le fruit de leur expérimentation en Europe. Leurs rapports se trouvent aujourd'hui disséminés un peu partout dans des collections européennes et nord-américaines. Cartographie, astronomie et hydrographie. Au XVIe siècle, les navigateurs font appel à des notions d'astronomie et de mathématiques pour se repérer en mer et cartographier les routes maritimes. À cet égard, deux instruments sont particulièrement utiles, la boussole et l'arbalestrille, ou bâton de Jacob. La boussole, qu'on utilise en Europe depuis le XIVe siècle, sert à s'orienter par rapport aux points cardinaux. Constituée de deux tiges de bois graduées et coulissantes, l'arbalestrille permet de mesurer la hauteur du soleil à son zénith ou la hauteur de l'étoile polaire pour déterminer la latitude où l'on se trouve. Dans son traité de la marine qu'il publie en 1632, Samuel de Champlain rappelle l'importance des cartes géographiques pour la navigation. Outre la boussole et l'arbalestrille, il y a le loc, un outil constitué d'un morceau de bois attaché à une corde graduée de nœuds équidistants. Cet objet est jeté à l'eau pendant une période calculée avec un sablier. En comptant le nombre de nœuds qui défilent, on peut estimer la vitesse du navire. Cette technique est d'ailleurs à l'origine de l'unité de mesure de vitesse actuelle en contexte de navigation nautique et aérienne. Plus tard dans le siècle, l'astronome, mathématicien et hydrographe Jean Déhay débarque à Québec. Auteur de traités sur des instruments scientifiques et leur maniement, Déhay a participé à des travaux de cartographie en France et à des voyages scientifiques en Afrique et dans les Antilles sous l'égide de l'Académie royale des sciences. À son arrivée à Québec, en 1685, il fait d'abord l'aller-retour au lac Ontario pour cartographier le fleuve à vue d'œil et prendre une dizaine de mesures de latitude. Durant l'hiver, il observe à Québec une éclipse de lune et calcule l'heure où elle se produit, ce qui lui permet d'estimer, a posteriori, la longitude de la capitale coloniale. Il parcourt en raquette la rive sud du fleuve et l'île d'Orléans et compte chacun de ses pas pour estimer la distance parcourue. Au printemps et à l'été, Déhay longe en barque la rive nord du fleuve jusqu'à cette île, puis jusqu'à l'île d'Anticosti. À l'aide d'un instrument mis au point à Paris, il combine ses mesures de latitude à une méthode de triangulation. Cette technique consiste à repérer des objets visibles de loin, clochers d'église, tours, moulins, sommets de montagne, et à calculer les angles formés par ces lieux. Avec l'aide de l'équipage de la barque, il sonde le fleuve pour en connaître la profondeur aux endroits critiques. Il dresse ainsi une carte du fleuve Saint-Laurent d'une grande exactitude, toujours utile lorsqu'elle est publiée 30 ans plus tard. Au milieu du XVIIIe siècle, les officiers militaires contribuent aux connaissances cartographiques et astronomiques du Canada dans un contexte de rivalités impériales avec les colonies britanniques. Roland-Michel Barrin de la Galissonnière coordonne les actions à titre de commandant général de la Nouvelle-France, puis comme chef du dépôt des cartes et plans de la Marine de France. Des documents gardent la trace de ces instructions aux officiers qui se rendent dans la région des Grands Lacs, par exemple celle de mai 1749 destinée à l'ingénieur Gaspard-Joseph Chausse-Gros de Léry, fils. L'officier doit y tenir un journal, y noter ses déplacements, prendre des mesures de hauteur des astres, observer l'éclipse de lune prévue le 8 août, en consigner l'heure de début et l'heure de fin, mentionner la qualité des terres, les essences des arbres, les obstacles sur les cours d'eau et évaluer les possibilités d'aménagement de havres et de forts. Il pourra également rapporter des échantillons de pierres et des graines de plantes. La Galissonnière rédige d'ailleurs, avec le savant Henri-Louis Duhamel du Monceau, un livre intitulé « Avis pour le transport par mer des arbres, des plantes vivaces, des semences, des animaux et des différents autres morceaux d'histoire naturelle » 1752. Géographes et officiers de marine plaident aussi pour une meilleure connaissance des côtes dans les environs de Louisbourg, situées sur l'île du Cap-Breton, région stratégique qui permet de contrôler l'entrée du golfe du Saint-Laurent. Protégé du réputé astronome Pierre Lemonnier, le jeune officier Joseph Bernard Chabert est désigné pour diriger une expédition dans la région en 1750 et 1751. Les instruments qu'il transporte sont à la fine pointe de la technologie. Il possède par exemple un très bon quart de cercle de 2,5 pieds de rayon qui permet de mesurer des distances angulaires ainsi que plusieurs télescopes. Chabert calcule les longitudes avec précision grâce à l'évaluation des distances entre la Lune et les étoiles. À son retour en France, il publie le livre « Voyage » fait par ordre du roi en 1750 et 1751 dans l'Amérique septentrionale pour rectifier les cartes des côtes de l'Acadie, de l'île Royale et de l'île de Terre-Neuve, 1753. Recommandé par l'Académie royale des sciences, l'ouvrage a le mérite de fixer les coordonnées de plusieurs localités sur la côte de l'Amérique du Nord et de rectifier les cartes existantes. Médecine, botanique, zoologie. Au XVIIIe siècle, les médecins du roi, Michel Sarrazin et Jean-François Gautier, œuvrent à Québec comme correspondants de l'Académie royale des sciences. Tous deux s'intéressent à la faune et à la flore du Canada. Ils communiquent leurs observations à des botanistes réputés et à d'autres savants installés à Paris. Certains de leurs écrits sont publiés dans des périodiques scientifiques tels que les Mémoires de l'Académie royale des sciences. Sarrazin étudie notamment le castor, le carcajou, le rat musqué et le phoque. Leurs mémoires sont envoyées à Paris avec des spécimens d'animaux ou de plantes. À la demande de Duhamel du Monceau, Gautier fournit également entre 1742 et 1748 une variété de notes botanico-météorologiques. Température prise avec un thermomètre, état du ciel, orientation du vent, date de gelée du sol, épidémie d'insectes, etc. Sarrazin et Gautier ont également laissé de riches manuscrits sur les plantes du Canada. C'était « Les sciences en Nouvelle-France », un texte de Jean-François Palomino, publié le 5 février 2024 dans BANQ.